Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec Politis, la une de l'hebdomadaire, ressources terrestres, l'humanité dépasse les bornes. Bonjour, Denis Cifer.
Bonjour.
Votre édito, la France et l'extrême droite israélienne, et vous posez cette question, la France va-t-elle pouvoir continuer à soutenir le colonialisme israélien avec le nouveau casting qui résulte des récentes législatives en Israël?
Oui, la question se pose avec une particulière acuité. Elle n'est pas nouvelle en réalité, parce que c'est aujourd'hui le seul pays, par exemple, qui interdise les appels au boycott des produits en provenance d'Israël. Alors que le diagnostic sur l'état de la société israélienne, c'est-à-dire en fait le constat d'apartheid qui est fait un peu par tout le monde, aujourd'hui n'est plus guère discutable. Ce qu'il y a de nouveau quand même, c'est que les élections législatives récentes en Israël ont marqué une extrême droitisation encore supérieure à ce qui avait été le cas lors des élections précédentes, et donc on peut se poser vraiment le problème de savoir si les appels au boycott lorsque le gouvernement israélien, comme c'est probable, intègre des personnages tels que ce Itamar Ben-Gvir, par exemple, qui dirige une milice qui se livre à des pogroms dans les territoires palestiniens, est encore défendable.
Et vous estimez que la France est la pièce maîtresse dans un système international qui assure l'impunité à Israël? C'est ce que vous écrivez?
Oui, parce que précisément l'interdiction faite aux appels au boycott, ça boucle un peu la boucle, disons, de l'entreprise coloniale. Là-bas, on colonialise et ici, on interdit les protestations. Donc, et on sait très bien que pour Israël, disons, la question de l'image, d'une part, et puis de la solidarité internationale qui peut accompagner les mouvements palestiniens est tout à fait cruciale. Donc on bloque, le gouvernement français bloque, disons, toute possibilité de protestation contre le colonialisme israélien. Alors ce colonialisme, non seulement il existe maintenant depuis 1967, disons, pour prendre cette date, mais il a changé de nature, parce qu'il est ultra-violent, et il est maintenant aux mains de gens qui sont quand même ceux qui ont inspiré ou encouragé l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Donc, quelques 20 ans plus tard, c'était en 1995, l'assassinat de Rabin, ces gens-là sont aux portes du pouvoir. Donc, ça change aussi même la nature, non seulement du gouvernement israélien, mais de la forme qu'a pris le colonialisme, aussi détestable soit-il dès l'origine.
Et vous insistez sur l'importance de la lutte contre toutes les discriminations.
Bien sûr, parce que la question que je pose dans cet éditorial, c'est aussi la conséquence que cette interdiction des appels au boycott et de la lutte contre l'apartheid israélien peut avoir sur la société française. C'est même pas un paradoxe, c'est presque une évidence. Ça produit de l'antisémitisme. Ça laisse penser que Israël est toute puissante, y compris sur la classe politique française. Et ça laisse à penser surtout que les plus extrêmes qui sont aujourd'hui au pouvoir en Israël seraient représentatifs de la communauté juive, ce qui est une horreur de le penser. Et donc, le gouvernement français s'en rend-il compte? J'en sais rien, mais en tout cas, il produit littéralement de l'antisémitisme en assimilant, disons, des personnages comme Itamar Ben-Gvir, je le cite, parce que c'est le pire, mais il n'est pas le seul, en les assimilant, disons, à la communauté juive, en les dirigeant, en représentant, en quelque sorte, du judaïsme, ce qui est une aberration.
Et vous évoquez l'état de la gauche israélienne aujourd'hui.
L'état de la gauche israélienne, malheureusement, ce n'est plus qu'un souvenir, parce que aujourd'hui, il y a 4 sièges, je crois, qui viennent au Parti travailliste. Le Meretz, l'autre parti de gauche, disparaît de la Knesset, du Parlement israélien. Et tout ça est consécutif d'un long processus qui commence, à mon avis, avec la vraie fausse négociation de Camp David en juillet 2000, quand on a tendu véritablement un piège à Arafat, et en février 2001, Shimon Peres, qui était l'homme le plus en vue, disons, du Parti travailliste rejoint le gouvernement de droite derrière Charles. À ce moment-là, il y a une sorte de, disons, de sabordage du Parti travailliste. Et depuis, ce n'est plus qu'une histoire d'une longue déchéance. Et quand on parle de droitisation de la société israélienne, c'est bien vrai, mais c'est un peu la poule et l'œuf. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de représentation politique de gauche qui soit un minimum attractive, eh bien, les gens, évidemment, se déplacent vers la droite, voire même l'extrême droite.
Et vous achevez votre édito en évoquant le sort de Salah Hamouri, cet avocat franco-palestinien détenu en Israël.
Oui, parce que ça va avec ce que je disais précédemment sur l'interdiction des appels au boycott et la criminalisation des appels au boycott. Mais on a un ressortissant franco-palestinien qui est en prison, comme ça se pratique pour les opposants en Israël, c'est de façon tout à fait arbitraire, sur de vagues soupçons, etc., qui datent de nombreuses années déjà. Et contrairement à ce que, à l'usage, la France ne lève pas le petit doigt pour essayer de sortir un ressortissant français de prison dans un pays étranger. Et non seulement on ne lève pas le petit doigt, mais il y a même eu des déclarations qui semblaient presque approuver son emprisonnement. Donc on a encore vraiment la manifestation d'une connivence qui est d'autant plus insupportable à mesure que le gouvernement israélien s'extrême droitise et tombe aux mains de gens qui sont des miliciens qui pratiquent des pauvres morts.
Merci, Denis Schiffer. Votre édito, La France et l'extrême droite israélienne, et la une de Politis, ressources terrestres, l'humanité dépasse les bornes.